budget.
Jour J donc pour le vote de ce décret programme sur l'enseignement.
Fabien Van Eekhout, vous vous trouvez au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vous le disiez Fabien, il y a une forte mobilisation des enseignants. Ils sont venus en nombre assister à la conclusion du volet parlementaire et a priori l'adoption ce soir de ce texte qui soulève la colère depuis des semaines maintenant.
Fabien, on peut d'abord rappeler en quelques lignes ce que contient précisément ce texte ?
Eh bien oui, ce décret 2 enseignement est né dans le contexte budgétaire compliqué, c'est peu dire, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est en effet lors du dernier conclave budgétaire en octobre pour limiter le déficit annuel de l'institution que le gouvernement aimerait engager à adopter cette série de mesures dites impopulaires touchant forcément avant tout le secteur de l'éducation qui représente 75% de la totalité de son budget. Parmi les économies envisagées dans ce texte littéralement fourre-tout, il y a ce fameux passage de 20 à 22 heures, 22 périodes de cours par semaine pour les professeurs du secondaire supérieur et ce sans compensation de salaire. Il y a la réduction des budgets gratuités pour les fournitures scolaires ou les repas. Il y a une réforme du régime de congé maladie ou des fins de carrière des profs. Il y a la réduction du nombre d'enseignants qui sont détachés pour un vrai retour en classe. Ou encore et enfin la hausse programmée pour les étudiants du Minerval de 800 à 1200 euros environ. Autant de mesures qui sont censées entrer en vigueur normalement dès la prochaine rentrée scolaire.
Alors faites-nous un peu un résumé des derniers épisodes, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, Fabien.
Oui, on ne va pas rappeler ici toutes les manœuvres de l'opposition, la flibuste, comme le dit la majorité. En fait, déposé au Parlement le 30 avril, ce projet de décret est examiné dans plusieurs commissions. Des amendements de l'opposition ont été envoyés à deux reprises au Conseil d'État, retardant les débats. En début de semaine, le texte a fini par être adopté en commission budget, majorité contre opposition. Mais l'opposition a dénoncé soudain des entorses au règlement du Parlement, appelant à la mission même de son président, l'engagé Benoît Dispa, n'a pas respecté notamment un délai légal de 84 heures avant le vote. Mais la majorité a fait front, assumant de passer en force avec hier un communiqué commun des présidents du MR et des engagés, très remarqué, appelant, après le temps du débat, à passer à celui de l'action et du vote. Nous y sommes.
Et justement, Fabien, que s'est-il passé depuis 14 heures, début de la séance ? On en est où en fait ?
Eh bien, le débat a patiné longuement, débat de procédure encore, deux heures durant, majorité et opposition se sont affrontés sur le bien fondé même de la plénière et du vote du jour, chacun accusant l'autre de piétiner la démocratie à coups de citations de constitutionnalistes. On a eu droit à une alarme aussi parce qu'il y avait intrusion dans le bâtiment de la part de manifestants. Il y a eu une suspension de séance pour laisser le temps aux parlementaires de se renseigner sur ce qui se passait du côté des manifestants à l'extérieur. Avant finalement, eh bien, un vote majorité contre opposition, la majorité a obtenu le maintien de l'ordre du jour. Le débat a donc sur le fond véritablement commencé il y a 30 minutes.
Et le vote, il est attendu pour quand ?
Eh bien, si on le savait, ça va être dans quelques heures. Les groupes politiques se succèdent actuellement, majorité, puis opposition. Chacun donne sa version. C'est d'abord la discussion générale, puis viendra la discussion article par article. L'opposition va, et on peut lui faire confiance, tenir le crachoir, entre guillemets, confisquer la parole, prolonger les débats tant qu'elle peut. Mais la même opposition, en coulisses, doit bien avouer qu'elle n'a plus vraiment d'armes pour empêcher le vote. Celui-ci aura donc bien lieu, majorité contre opposition, sans surprise a priori, dans la soirée ou la nuit. Maintenant, on sait déjà qu'au-delà, eh bien, l'adoption du texte ne va pas dire la fin de la colère des enseignants. Sur le terrain, on le sait, la mobilisation pourrait se poursuivre et perturber l'organisation des examens d'année à plusieurs écoles. Et puis certains ne cachent pas déjà leur volonté de maintenir, s'il y a vote, une mobilisation massive qui pourrait se réactiver à la prochaine rentrée scolaire. Et ça, les députés ici, majorité comme opposition, le savent aussi.
Et en attendant, bonne longue soirée à vous Fabien Van Eekhout. Merci pour cet éclairage. J-3 avant les élections, des élections déterminantes en Arménie.
Oui, les Arméniens sont appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler leur parlement. Rislen, ce sont des élections législatives qui ressemblent bien plus qu'à un simple scrutin parlementaire.
Oui, derrière ce vote, c'est une question existentielle qui se pose. Quel camp choisir ? Quel avenir et avec qui ? D'un côté, le Premier ministre sortant, Nikol Pachinian, au pouvoir depuis 2018, pro-européen. Selon les derniers sondages, il est les donner favoris, mais sans garantie de majorité absolue. De l'autre, une opposition largement pro-russe qui surfe sur les peurs. Et face à tous ces candidats, il y a une société polarisée, traumatisée par une guerre avec l'Azerbaïdjan, pays voisin. Une guerre qui a conduit à la perte du Haut-Karabakh en 2023. Une enclave historiquement arménienne, rattachée par Staline à l'Azerbaïdjan. En quelques jours, 120 000 Arméniens en ont été chassés. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux dit tout de cette blessure encore béante. On y voit le Premier ministre Nikol Pachinian qui se dispute avec une femme originaire du Haut-Karabakh. En pleine campagne électorale, il exhorte les Arméniens à accepter l'Arménie dans ses frontières actuelles. La femme refuse, expliquant qu'elle a une autre vision des choses.
Et c'est ce traumatisme qui explique, Ghislaine, le tournant pro-occidental de Pachinian.
Oui, Nikol Pachinian a tiré les conséquences d'une trahison russe lors de cette guerre. La Russie, censée être le protecteur de l'Arménie, n'a pas bougé. Le Premier ministre s'est alors tourné vers l'Occident, à la fois l'Union européenne et les États-Unis. L'an dernier, le Parlement arménien a voté une loi qui engage officiellement le processus d'adhésion à l'Union. Une rupture historique pour cette ancienne république soviétique. Il y a aussi les accords de Washington, paraphés mais pas encore signés, qui prévoient notamment la construction d'un corridor à travers le sud du pays. L'idée, faire de l'Arménie un pont entre l'Europe et l'Asie en contournant la Russie et normaliser progressivement les relations avec l'ennemi historique turc. Un programme ambitieux et fragile parce que l'Arménie dépend encore fortement de la Russie.
Et face à cette volte-face, Moscou ne reste évidemment pas les bras croisés.
Eh bien non, parce que ce qui se joue entre l'Arménie et ses pays voisins, sous l'égide des États-Unis et avec le soutien des Européens, contribuerait à une dynamique régionale qui écarterait l'hégémonie russe. Et le Kremlin ne cache pas son mécontentement. Il veut que l'Arménie organise un référendum sur l'adhésion à l'Union, menace de couper le pétrole et le gaz à bas prix, va même jusqu'à comparer l'Arménie à l'Ukraine. Chacun sait ce que ça signifie. Et selon une enquête de Reuters, Moscou finance une vaste campagne de désinformation sur deux axes. La peur, les accords de Washington mèneront à une nouvelle guerre. Ensuite, la défiance, Nikol Pachinian est l'homme de l'Occident, un traître. Le message, sans les Russes, vous êtes seuls.
Et cette rhétorique trouve un écho dans l'opposition arménienne.
Oui, elle trouve un écho profond parce qu'elle s'appuie sur la blessure du Haut-Karabakh. C'est bien plus qu'un territoire perdu. C'est un récit national, une mémoire, une plaie béante. Et l'opposition, à commencer par le principal rival, Narek Karapetian, joue sur cette douleur, accuse Nikol Pachinian de livrer l'Arménie aux Turcs, de provoquer une guerre avec Moscou et l'Europe. Alors, qu'a-t-elle fait pour empêcher la perte du Haut-Karabakh ? Le soutien affiché de Paris, de Washington, de la Commission européenne à Nikol Pachinian ne fait qu'alimenter ce récit. Et les Arméniens, au milieu, ces élections ressemblent déjà, en fait, à un référendum pour ou contre la Russie, pour ou contre l'Occident. Nikol Pachinian mise, lui, sur les deux, pour l'Occident, sans rejeter la Russie.
Ghislaine Kunda, ce sont des scènes de casse, de bagarre et d'affrontement avec les forces de l'ordre qui ont terni la fête.
Après la victoire du PSG en Ligue des Champions samedi dernier, près de 900 personnes ont été interpellées dans toute la France et notamment à Paris.
Oui, la classe politique s'est emparée de ces violences, violences qui ont beaucoup choqué la société. C'est ce que vous nous racontez depuis Paris, Frédéric.
Oui, c'est vraiment un mélange d'émotions qui a traversé les Parisiens le week-end dernier. D'abord, une grande joie, bien sûr, celle du deuxième titre d'affilée en Ligue des Champions. Des centaines de milliers de personnes ont fait la fête pacifiquement. La joie, donc, mais aussi le dégoût et la colère après ces scènes de violence. Des jeunes hommes, souvent le visage masqué, qui ont affronté les policiers avec des tirs de projectiles et de feux d'artifice. Ils ont aussi cassé, dégradé du mobilier urbain, à tel point que le lendemain, Emmanuel Macron a condamné ces violences. Il était à l'Élysée où il recevait justement l'équipe du PSG.
C'est pas le foot ça, c'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc on sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés, on ne veut plus voir ça, on en a ras-le-bol.
Un ras-le-bol également partagé par des personnalités médiatiques, à l'image de Karine Lemarchand, l'animatrice de la très populaire émission L'Amour est dans le Pré, a poussé un coup de gueule sur ses réseaux sociaux.
Je me balade dans Paris, là, je suis passée par les Champs-Élysées, et je me dis, mais en fait ça ne redescend pas ma colère. Combien ils ont pris de tôle ? Combien ils doivent donner d'argent à la société ? Parce que qui est-ce qui va payer ? C'est encore les assurants, c'est encore les impôts, c'est encore moins. Moi, je n'ai pas à payer pour ces cassos.
Et le coût financier des dégâts n'a pas encore été communiqué.
Et c'est justement ce coût qui est au centre du débat politique.
Oui, le Premier ministre Sébastien Lecornu veut piocher dans les allocations familiales, dans les prestations sociales que reçoivent les délinquants pour rembourser la casse. Une proposition difficilement applicable puisqu'il faut pouvoir discerner précisément la part de responsabilité de chaque accusé dans des phénomènes souvent collectifs et à visage dissimulé. Mais politiquement, le chef du gouvernement français était obligé de mettre de nouvelles idées sur la table car il est soumis à la pression des oppositions. Celle de la France insoumise à gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon accuse carrément le gouvernement d'avoir lui-même généré le désordre à cause, je cite, de la répression policière. Et puis du côté du Rassemblement national de Marine Le Pen, l'accusation est diamétralement opposée. Le gouvernement aurait été trop laxiste.
Le laxisme sécuritaire, ce sera à l'évidence l'un des thèmes poussés par le Rassemblement national, le parti d'extrême droite. Et ce sera un thème poussé lors de la campagne présidentielle qui s'annonce, Frédéric.
Oui, le président du RN, Jordan Bardella, observe qu'il a gagné 5 points de popularité depuis ses violences après la victoire du PSG. Alors il n'a pas hésité à faire le lien entre ces violences et l'immigration, ce qui a suscité l'indignation de la gauche, mais aussi de Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, qui lui aussi se positionne pour la prochaine élection présidentielle. Vous le voyez, avec tous ces débats, on était bien loin du ballon rond et de la Ligue des Champions.
Effectivement, Frédéric Saïs, vous êtes notre correspondant à Paris.